Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Face à la recrudescence des attaques, quelle réponse pour le Mali? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir. Le Mali fait face à une nouvelle vague d'attaques coordonnées. En l'espace de quelques jours, plusieurs positions des forces armées maliennes ont été visées dans le nord, le centre et le sud du pays, illustrant la capacité des groupes armés à agir sur plusieurs fronts. Pour faire face à cette menace, les autorités ont renforcé les capacités des FAMA à travers de nouveaux équipements, des moyens aériens et terrestres plus performants, ainsi qu'une meilleure adaptation au terrain. Malgré ces efforts, les attaques se poursuivent et relancent le débat sur l'efficacité des réponses à apporter. Comment expliquer cette évolution de la menace? Les groupes armés ont-ils changé de stratégie? La réponse doit-elle être uniquement militaire ou faut-il agir sur d'autres leviers comme la gouvernance, le développement et l'implication des populations? Pour en parler, nous recevons Madame Samake Fatoumata Traoré, experte en gouvernance politique. Docteur Ahmadou Touré, expert en sécurité et gouvernance locale. À la présentation, je suis Mrana Kilomaïga, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Fatoumata, les attaques simultanées semblent devenir de plus en plus fréquentes au Mali. Comment analysez-vous cette évolution?
Alors, cette évolution, elle est déjà prévisible, hein, parce que nous savons très bien que du point de vue politique et même au niveau de la géopolitique, on se rend compte qu'il y a un certain durcissement des rapports diplomatiques avec certains pays. Mais en même temps aussi, on voit très bien que par rapport au terrorisme, il y a carrément un changement de tactique qui abandonne désormais les attaques frontales, mais beaucoup plus des attaques par palier, donc notamment en ce qui concerne la décentralisation même de la lutte terroriste au Sahel. Donc cela s'explique aussi par le fait que nous sommes dans une situation persistante de redéfinition des agendas, donc agenda au niveau national, agenda au niveau, on va dire, des relations entre certaines structures, on va dire, institutions sous-régionales. Alors, la multiplicité de ces attaques terroristes est liée certainement au fait que de plus en plus on veut remettre en cause la montée en puissance des services, des forces de défense et de sécurité du Mali, mais en même temps assurer une certaine pérennité dans le terrorisme tout court, c'est-à-dire terroriser les populations, donc pour pouvoir occuper du terrain et aussi fragiliser la vie de nos concitoyens. Donc dans cette situation, je pense les luttes, on ne va pas dire les luttes terroristes, mais les groupes armés redéfinissent des nouveaux rapports avec les populations, mais aussi cherchent à s'ancrer durablement dans certaines localités qui sont hors du contrôle de l'État.
Quand vous parlez de rapports avec certains pays, de rapports diplomatiques avec certains pays, est-ce que le fait que les pays entre eux n'ont pas de rapport bien défini, a un lien avec ces groupes, ces attaques coordonnées?
Certainement, donc ça a un lien, parce que c'est un constat, hein, c'est un fait qui est là. Depuis qu'il y a des tensions diplomatiques entre le Mali, ou on va dire la Confédération des États du Sahel, avec les anciens colonisateurs, donc on voit que la lutte terroriste a connu une ampleur indéniable, non seulement à travers la sophistication de la lutte, disons la sophistication des moyens de contrôle de certains pans du territoire national, mais aussi la multiplicité ou même la diversification de la façon dont on doit terroriser les populations. Donc il y a un lien indéniable entre ces deux faits-là. Maintenant, dire qu'il n'y a pas de relation, ce n'est pas de ça que je parle. Il y a toujours un dialogue, hein. Il y a toujours des relations. Notamment, nous savons très bien qu'au niveau sous-régional, le Mali n'a pas rompu carrément avec, par exemple, l'Union africaine. Et il y a un dialogue aussi qui s'installe entre l'AES et puis la CEDEAO. Donc ce n'est pas une rupture totale, mais il y a une redéfinition géopolitique qui fait qu'aujourd'hui, nous avons opté désormais donc pour des choix stratégiques vis-à-vis de nos partenaires extérieurs.
Docteur Ahmadou Touré, peut-on faire de liens avec les attaques coordonnées et simultanées avec le divorce diplomatique constaté?
Bon, d'un point de vue géopolitique, forcément, il y a toujours des connotations, parce que, comme on dit, les pays n'ont pas d'amis, mais des intérêts. Et si nous voyons un peu l'orientation politique de l'AES de façon générale, et aussi les multiples tentatives de déstabilisation, de sabotage des efforts en cours, on peut dire oui. Et qu'est-ce qu'on constate aussi, comme ça a été dit et plusieurs fois démontré, le tourisme apparaît comme le gagne-pain de certains pays. Lutter contre le tourisme les obligerait à venir s'installer de façon durable, à saper les efforts politiques en cours en s'installant par des bases, soi-disant pour une lutte terroriste internationale qui n'a jamais porté fruit. Donc, de façon générale, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces attaques? La leçon qu'on peut en tirer, c'est que, heureusement pour nous, le Mali, de façon avec l'AES, ont tiré la leçon des multiples attaques. Donc, la riposte du 4 juillet, à mon avis, avec l'excellence opérationnelle du partenariat russe, a montré que nous disposons désormais d'un modèle d'excellence tactique et stratégique qui a permis non seulement de neutraliser l'offensive, et tout en contrôlant l'intégralité des emprises attaquées. Et ces pays, soi-disant puissances internationales, ne font que faire leur jeu par pays interposés. Et ça a été démontré, je ne l'ai pas dit, certains ambassades auraient de façon visue affirmé leur soutien à ceux qui attaquent le Mali.
Vous faites référence à l'ambassade de l'Ukraine qui avait fait cette annonce
au Sénégal. Et certains pays aussi abriteraient des forces hostiles au Mali. Donc c'est pour dire qu'il y a toujours des collisions de puissances internationales des pays étrangers de façon interposée pour saboter. Mais
d'accord, vous l'avez dit, hein, les groupes armés paraissent aujourd'hui capables de mener des attaques complexes et coordonnées. Le véritable défi reste-t-il celui des moyens du renseignement, de la stratégie ou de la coordination?
Pour moi, je ne vois pas de défi. Pour moi, je suis tout à fait heureux parce que malgré l'ampleur des attaques, on arrive à riposter en neutralisant les attaques, en maintenant le contrôle des emprises. Et qu'est-ce qui se passe aussi? C'est des tests. C'est des tests, comme on l'a dit, il n'y a pas de 100% de sécurité nulle part. Malgré la puissance des pays, les attaques terroristes existent. Et ce que nous vivons ce qu'on appelle le terrorisme déguisé. Nous avons la guerre asymétrique. Nous avons beaucoup de choses qui se sont multipliées pour donner des acteurs hybrides. Je donne l'exemple. Les attaques coordonnées, pour moi, c'est les dernières tentatives de ce que nous allons vivre, parce que nous avons constaté dans le temps, c'est des attaques classiques, et maintenant nous sommes dans des guerres asymétriques à variables multiples. Et je donne l'assurance que les armes dont disposent ces groupes terroristes collisent avec les groupes rebelles n'existent pas. C'est des armes qu'on ne peut pas vendre à des tiers, c'est des armes qu'on vend à des États. Et la planification montre que ces groupes hostiles à l'État malien sont soutenus. D'accord. Et sont soutenus, mais malheureusement pour eux, l'État malien s'adapte. Le renforcement, la capacité tactique opérationnelle montre que le Mali n'a pas défumé. Le Mali est en train de tenir bon malgré les attaques, d'accord, qu'on est en train de suivre.
Tout à fait. Les images diffusées après le combat d'Anéfis montrent que le groupe armé dispose parfois d'équipements sophistiqués. Comment le groupe réussit-il à se procurer des armes aussi importantes?
Alors, je pense que Touré en a parlé tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que ce qui est indéniable aujourd'hui, c'est que ces groupes terroristes ont des sponsors. Et ces sponsors-là disposent justement de ces outils-là. Et je pense aussi la menace terroriste actuelle, telle que nous la vivons actuellement, c'est qu'il y a une certaine adaptation de cette menace terroriste à la à la capacité opérationnelle même que l'État s'est donné comme sacrifice pour que les forces de défense et de sécurité puissent aborder cette question terroriste-là. Donc ça veut dire que les sponsors sont au courant de comment est-ce que nous nous équipons, de ce que nous disposons pour quand même armer les terroristes à la hauteur. Mais ce que j'aimerais souligner à ce niveau aussi, c'est que la complexité des attaques terroristes actuelles, on ne peut pas l'évaluer uniquement sur le plan militaire. Parce que, c'est-à-dire...
Nous allons y arriver. Les frontières restent-elles le principal point de passage de ces armes, de ces équipements?
Bon, il y a les frontières, c'est vrai. Il y a la porosité des frontières qui compte beaucoup. Mais au-delà de ça, on voit très bien que les groupes terroristes, quand ils attaquent une communauté ou en tout cas un territoire, ils n'essayent pas de s'ancrer là-bas durablement. Ils cherchent beaucoup plus à créer une relation de confiance avec les populations. Donc ça aussi, c'est un problème parce que là où l'État n'est pas, donc ces groupes terroristes se servent d'alternative par rapport aux fonctions régaliennes de l'État.
Mais comment la renforcer santé, le contrôle des frontières et améliorer le renseignement?
Alors, améliorer le renseignement, en fait, je pense que c'est tout un tout. Hein, parce que le terrain militaire, c'est vrai, il faut aller vers la question militaire hein, indéniablement pour pouvoir sécuriser et pour aussi notre propre souveraineté. Mais au-delà de là, il y a aussi la question politique qu'il faut régler. La question politique, c'est quoi? C'est tout ce qui est lié à la question de gouvernance au niveau local, donc pour permettre à ce que, à chaque fois que les militaires, ou en tout cas les forces de défense et de sécurité arrivent à faire déloger des groupes terroristes, que aussitôt des forces, disons, des agents de l'État soient là, justement, pour que cette paix-là puisse rester durablement. Souvent, c'est ce problème-là qui fait que... Parce que les forces de défense et de sécurité ne peuvent pas rester durablement dans une zone. Elles sont appelées sur d'autres théâtres pour défendre d'autres populations. Donc maintenant, si on fait juste l'effort de les déloger, on leur donne l'occasion d'aller s'ancrer ailleurs, d'aller se recomposer ailleurs. En même temps, ce qui est important aussi à souligner, c'est le fait que la menace terroriste que nous connaissons actuellement n'est plus un chef qui dicte la loi, c'est-à-dire à travers des subordonnés. Mais il y a une certaine décentralisation où chaque cellule peut désormais s'activer et faire le travail librement.
D'accord.
Donc, de ce point de vue-là, je pense que la question de la gouvernance est au centre, mais également la question de la porosité des frontières dont il faut trouver
des... J'allais même en venir tout de suite.
Voilà.
Vous êtes tous les deux des experts en gouvernance, l'un en gouvernance politique et l'autre en gouvernance locale. Fatoumata a touché tout de suite la question de la gouvernance. Quel rôle la gouvernance joue-t-elle dans la lutte contre le terrorisme?
La gouvernance joue un rôle indéniable, mais à ce niveau, il faut être prudent. Parce que là où nous sommes, il faut la sécurité, il faut que le Mali arrive à se débarrasser carrément du tourisme sur le territoire national. Comme on dit, l'intégrité territoriale n'est pas à négocier. Maintenant, la question de gouvernance où il faudrait l'activation ou le rôle régalien des représentants de l'État, ou soit des collectivités locales, c'est un complément. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sécurité sans développement. Développement sécurité n'est pas du tout acceptable, mais à ce jour, il est très difficile où nous sommes dans une situation où la complexité amène l'État à mettre l'accent surtout sur la sécurité. Il faut plus de sécurité pour avoir le développement. Et la sécurité, de façon générale, elle est collective, elle est individuelle. Et à ce niveau, même si l'État, les forces de défense arrivent à neutraliser les groupes terroristes, les groupes hostiles, il faudrait que la relève puisse être assurée.
L'absence ou la faible présence de l'État dans certaines localités favorise-t-elle l'implantation des groupes armés?
Bon, cette question, je peux dire que ça pourrait, mais pas forcément. Ça pourrait veut dire quoi? Il y a certains qui profiteraient pour essayer de jouer le rôle de l'État. C'est-à-dire que l'État soit présent ou pas, certaines prérogatives appartiennent à l'État. Mais du point de vue sécuritaire, s'il y a une absence sécuritaire, ça pourrait donner aux groupes hostiles de venir s'installer et dicter leurs lois. Donc maintenant, on dit, j'ai lu un livre sur la Chine, on dit qu'il ne faut pas tout attendre de l'État. Il faut que les populations elles-mêmes s'activent pour s'organiser, à de telle sorte que les besoins essentiels des populations puissent être attirés. C'est-à-dire que oser chercher les besoins à ne pas attendre l'État à tout bout de champ. Parce que qu'est-ce que nous constatons? Nous sommes dans un sentier multiple où il faut faire la guerre, il faut développer, il faut réformer, il faut former. Donc c'est très difficile pour l'État. Mais ces groupes armés pourraient profiter de l'absence de l'État. Mais en tant que représentant de l'État, sans force et sans sécurité, ça va être très difficile.
Mais comment renforcer la présence de l'administration dans les zones les plus exposées?
Bon, l'administration peut être présente, mais soutenue par l'armée. Je donne un exemple. Si tout de suite on est appelé à aller à Todeni ou bien à quelques kilomètres de Tombouctou, il faut forcément que nous soyons soutenus par des forces armées. Mais si nous prenons l'architecture de la zone de Tombouctou, les préfets sont sur place dans les chefs-lieux de cercle. Certains sont au niveau de la zone de Tombouctou. Mais c'est pour dire qu'il n'est pas du tout envisageable de laisser les représentants de l'État seuls sans une force soutenue. C'est très difficile.
Fatoumata, la question de la gouvernance politique, quel est son rôle dans la gestion de la crise?
Alors, ça a un rôle extrêmement important parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on doit s'adapter à cette transition stratégique des mouvements terroristes. C'est-à-dire que pour comprendre, déjà, il faut savoir que le terrorisme est passé d'un modèle vertical vers un modèle décentralisé où chaque cellule est autonome et peut agir. Donc la stratégie qui consiste à décapiter le sommet ne suffit plus, c'est-à-dire les personnes les plus en vue, parce qu'aujourd'hui, tout est décentralisé et on arrive vraiment à frapper où on veut, parce qu'ils se sont adaptés à l'architecture géographique nationale. Maintenant, pour justement arriver concrètement à une intégration de cette gouvernance locale, j'ai pensé à trois stratégies. D'abord, la première stratégie, c'est la reconquête de l'espace politique et administratif, parce que la force peut sécuriser disons un territoire pendant un moment, mais ne peut pas y administrer quoi que ce soit. Donc, en ce moment-là, l'État doit déployer ce qu'on appelle l'approche par palier, donc notamment la sécurisation. Donc, les FAMAD font la sécurisation. Ensuite, il y a la restauration des services de base, donc réouverture immédiate des écoles, des centres de santé et fonctionnement de l'administration en matière de sécurité ou autre. Et ensuite, la justice et puis la médiation. Là, il s'agit de l'installation de mécanismes locaux, donc de résolution des conflits. Parce que si les populations ont autant peur des autorités que des terroristes, l'information ne peut pas venir de ces mêmes populations. Il faut aussi, la deuxième stratégie consiste à aller vers un modèle réticulaire, je m'explique. C'est-à-dire que la difficulté actuelle réside dans le fait que les groupes terroristes ont adopté une structure décentralisée, je l'ai dit tantôt. Et comprendre ce modèle permet aussi de mieux cibler les efforts donc, de contre-insurrection. Donc, dans ce chemin, vous allez remarquer que, contrairement à la structure classique, où quand le chef donne l'information, ou en tout cas lance ce qu'il y a lieu à faire et que les autres exécutent, on n'est plus dans ce modèle-là. Donc aujourd'hui, la réponse ne peut pas être uniquement basée sur l'élimination de ces leaders, mais sur la rupture des liens intimes qui existent entre ces forces décentralisées et les populations. Et pour y arriver, la priorité stratégique, c'est le renseignement par la confiance. Là, c'est la troisième stratégie que je propose, parce que le paradoxe, c'est qu'il faut aller vers une transition de renseignement technique vers le renseignement humain aussi. D'accord. Parce qu'ils se sont imbriqués au sein de la population et la population doit pouvoir donner renseignements.
Le développement économique et la création d'emplois peuvent-ils réduire l'influence de groupes armés?
Bien évidemment, mais comme vous le savez très bien, le développement économique ne peut advenir que dans un espace sécurisé. Donc c'est pour ça que nous pensons que l'option militaire est un modèle à maintenir. Sauf que ça doit être complété justement par des modèles économiques, des modèles de renforcement des relations de confiance entre l'État et les populations, des moyens qui vont peut-être contrer même le contre-renseignement, parce que si les populations donnent les mêmes renseignements aux groupes terroristes qu'à l'État, il y a un problème. Donc, il va falloir que l'État puisse s'incruster durablement dans les zones et redonner une confiance et que ces populations-là se sentent protégées. Donc, en ce moment-là, il y a un lien. Le lien.
Mais comment protéger ces populations tout en poursuivre les opérations?
J'avais parlé de redéploiement administratif et politique. Donc, c'est ça qui va le permettre. Parce que dans n'importe quelle localité, quand il y a redéploiement administratif et politique, il y a les services sociaux de base, mais y compris la sécurité aussi. C'est-à-dire la police, la gendarmerie, les militaires et tout le monde. Donc ça fait que chacun, en jouant son rôle, avec aussi le renseignement de proximité, cela va permettre à ce que l'État puisse, en tout cas, ne serait-ce qu'éloigner les populations de certains calculs terroristes, parce que souvent, elles viennent par la ruse en promettant aux populations ce que l'État ne peut pas leur donner. Donc, en matière de ça, il y a le recrutement, bien sûr, et ces personnes-là, il y a aussi l'accès à certains services, il y a la question de la justice. Donc, tout cela, le redéploiement administratif et politique aurait permis cela après que les forces de défense et de sécurité aient nettoyé une zone donnée.
D'accord. Voilà, nous parlons de la situation sécuritaire et au moment où on parle, il y a l'armée malienne qui avait annoncé avoir pris le contrôle total d'Anefis qui faisait l'objet de combats depuis samedi dernier. D'ailleurs, on a vu des images des mineurs dans ces groupes armés. Le jeune demeure-t-il les principales cibles de groupes terroristes pour le recrutement?
Oui, c'est un fait. Moi-même, j'ai constaté cela parce que, à défaut d'avoir des combattants, ils font recruter des enfants. Là où je reste un peu sur ma faim, c'est que les soi-disant organisations internationales de droits de l'homme n'ont rien fait. C'est-à-dire que l'utilisation des enfants, on l'a vu, c'est un fait. Donc, le recrutement des jeunes, quel que soit le modèle, est à bannir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit à utiliser les enfants comme des chars à canon. Donc c'est un fait qui est condamnable, qui peut être saisi par les organisations de défense des droits de l'homme, mais qui n'ont rien fait à ce jour.
Quelle place la coopération avec les pays voisins et les partenaires régionaux doit occuper dans ce cas précis?
Les partenaires qui sont sincères peuvent venir. On l'a dit, il faut venir en fonction des intérêts. Malheureusement, on constate qu'il y a la non-sincérité de certains pays frontaliers, donc c'est très difficile. À ce jour, le Mali n'a besoin qu'il y ait des partenaires sincères qui comprennent que l'intégrité territoriale, autant chez eux comme au Mali, n'est pas à négocier. Donc on ne peut pas accepter qu'autant que l'armée malienne ou l'armée nationale, que d'autres personnes portent les armes. Donc s'ils comprennent ceci, on peut forcément collaborer. Et aussi qui donne des garanties. Donc la collaboration est.
Vous faites référence à quel pays qui peut.
Bon, les pays, ce n'est pas à cacher. Les pays frontaliers, là où les groupes terroristes se soignent.
Mais est-ce qu'il n'y a pas de partage de renseignements entre ces pays-là avec le Mali ou les pays de l'AES?
Bon, à ce niveau, je ne pourrais pas le dire, mais ce qui est sûr, ces pays, c'est des pays hostiles. Et les faits montrent qu'ils sont vraiment hostiles parce que. Et tout ce qu'on est en train de subir comme attaque vient de ces pays frontaliers. C'est très difficile. Et les armements, les équipements, le renseignement, les blessés qui sont soignés, les personnes hostiles qui sont logées, hébergées. Donc c'est très difficile pour moi, ma compréhension, de comprendre qu'on est amis, mais on ne se donne pas la peine de se comprendre et de s'aider. Sinon, le Mali n'a besoin que d'être compris. Pour qu'on puisse aider le Mali en fonction de ses besoins.
Au début de cette émission, Fatoumata l'a touché un tout petit peu. La réponse doit-elle rester principalement militaire ou s'inscrire dans une approche plus globale?
Bon, pour moi, la première option, c'est l'approche militaire. Parce que nul n'a le droit de porter l'arme sur le territoire national. De ce fait, c'est des prérogatives de l'État. Le territoire national n'est pas à négocier. Maintenant, on peut faire accompagner ces actions militaires par des actions civilo-militaires. C'est-à-dire des campagnes de sensibilisation, l'installation de forages, soigner les blessés, le retour progressif de l'État, de l'administration. Donc ces options sont tout à fait normales. Mais aller dans d'autres schémas, moi je ne vois pas. Parce que c'est très difficile qu'on comprenne qu'on nous attaque, nous sommes victimes des attaques. Donc il faut qu'on se défende, qu'on assure notre sécurité en fonction des mécanismes qu'on a. Nous avons déjà la charte pour la paix qui est là. Les mécanismes sont connus, les principes de base sont connus. Ceux qui viennent s'inscrivent de facto en déposant les armes. en se rendant à l'État. Et là, l'État fera le nécessaire. Donc, à ce jour, les actions militaires continuent. Et les actions civilo-militaires aussi, comme l'ont fait les militaires, en accompagnant les populations sur place avec les retours progressifs de l'administration de l'État, comme nous avons vu le cas de Kidal avant les événements de 2025. Nous avons vu beaucoup d'actions soutenues par l'État.
D'accord. Alors, quelles mesures pourraient produire des résultats concrets à court terme ?
À court terme, ce qu'on compte, c'est que le mécanisme actuel, c'est que le gouvernement a adopté une réforme qui est en cours au niveau du CNT, réformer la défense et la sécurité, un projet de loi qui a été adopté, mais qui est au niveau du CNT à ce jour, qu'on continue toujours à recruter, à former, à perfectionner, à s'équiper, et continuer avec les partenaires sincères qui sont les Russes, en ce moment qui sont des frères d'armes sur le territoire, qui ont montré leur capacité à travers des modèles d'excellence tactique et stratégique qui nous ont permis de neutraliser tout en conservant les positions de nos emprises.
Fatmata, est-ce que vous partagez l'idée selon laquelle il faut continuer avec les opérations militaires uniquement ?
Bon, je pense que opération militaire, opération civile, c'est complémentaire parce que nous savons très bien qu'aujourd'hui, nous devons aller vers une transition du renseignement technique, c'est-à-dire à travers les drones et autres, l'imagerie, vers le renseignement humain. Donc cette transition ne peut se faire que dans une complémentarité totale, dans la mesure où le renseignement humain va être un renseignement de proximité en temps réel et l'imagerie va être quelque chose qui va en tout cas donner plus de poids à ce qui avait été soupçonné ou autre. Donc je pense que les deux sont complémentaires. Aujourd'hui, je pense qu'il est extrêmement important qu'il faut avoir justement il faut voir ça sous l'angle global de la sécurisation totale des populations. C'est vrai, il faut faire en sorte que les forces de défense et de sécurité montent en puissance. Et dans tous les pays, même en temps de paix, il le faut. Ce n'est pas uniquement dans la guerre qu'on a besoin que les forces de défense et de sécurité soient à la hauteur. Mais au-delà de ça, quand on est dans une guerre asymétrique de ce genre, partout où on a pu vaincre le terrorisme, on a mis à profit le renseignement humain, on a mis à profit les populations locales avec qui ces forces du mal là essayent de pactiser. Alors en ce moment là, il va falloir que l'État essaye de produire une rupture de ces liens. De ce lien social, ou on va dire de ce lien de protection, en s'imbriquant durablement dans les zones. C'est-à-dire qu'il faut que nous ayons, par exemple, les forces de défense et de sécurité dans ces zones-là, non pas comme une force d'occupation, mais une force de protection au service de la population.
Vous l'avez souligné un petit peu. Les groupes armés ont-ils changé de stratégie quand on regarde les attaques coordonnées et simultanées? Généralement, les week-ends, prenons par exemple le cas où Sadio Camara a été tué, c'était un week-end. Récemment également, c'était des week-ends. Cette stratégie de groupes armés, comment vous le comprenez?
Alors, je pense qu'on ne peut pas réduire uniquement cette question au fait que c'est des jours non ouvrables. C'est dans une stratégie globale d'adaptation des groupes terroristes au contexte actuel de montée en puissance des forces de défense et de sécurité. Ils savent très bien que, bon, voilà, par rapport au week-end, les gens essayent de souffler un petit peu après une semaine chargée. Donc, ils s'adaptent. Vous savez, au départ, ces groupes terroristes ne s'attaquaient pas frontalement aux populations. S'attaquaient, par exemple, à des camps, s'attaquaient peut-être à des villages ou autres, mais ne s'attaquaient pas directement à l'économie nationale. Et vous savez, actuellement, on a vu qu'il y a eu cette transition vers une certaine remise en cause même du modèle économique de l'État qui consiste à dire nous allons satisfaire les besoins de la population. Donc, pour aller à l'encontre de cela, eux, ils s'attaquent justement aux biens économiques de ces populations pour que cela ne soit pas une réalité.
Nous n'avons plus de temps. La dernière question, je vous pose une dernière question. Mm-hmm. Quel message souhaiterez-vous adresser aux autorités, aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux populations pour renforcer la résilience face à cette menace?
Alors, la première chose, le premier message que je voudrais adresser aux autorités, c'est de se rendre compte, je sais que c'est déjà fait, mais de se rendre compte que ces terroristes-là cherchent à s'adapter à tout moment à la stratégie militaire que nous connaissons. Et même par rapport à nos stratégies locales, notamment tout ce qui concerne satisfaction des besoins fondamentaux des populations. Mais pour les populations, c'est d'être vigilant et se dire que ces terroristes ne peuvent jamais remplacer le bouclier de protection que consiste l'État malien. D'accord. Et il faut être vigilant, il faut savoir que ces groupes terroristes ne sont que des forces du mal dont il faut s'éloigner. D'accord. Définitivement.
Docteur Ahmadou Touré, quel message souhaiterez-vous adresser aux autorités, aux forces de défense et de sécurité et aux populations?
Par rapport aux autorités, notamment aux FAMA, un message de soutien et de fierté pour le travail abattu, pour les contre-offensives, la reconquête progressive du territoire. Et continuons toujours à défendre l'intégrité territoriale. C'est le seul prix à payer pour notre souveraineté. Donc malheureusement, on nous a imposé une guerre à laquelle il faudrait qu'on fasse face. Donc, il ne faudrait pas qu'on recule, qu'on termine cette guerre avec tous les moyens dont nous disposons avec des partenaires sincères. Et par rapport aux populations, qu'on comprenne que l'armée, elle est là pour nous. Les partenaires sont là pour nous, comme l'a souligné le président de la transition. Les populations restent l'arme invisible des FAMA. Sans population, c'est très difficile qu'on arrive à une lutte efficace contre le terrorisme. Il faudrait l'implication. La sécurité, elle est collective, elle est individuelle. Chaque citoyen a un rôle à jouer dans cette lutte, contre cette guerre qu'on nous a imposée.
Merci. C'est avec ces mots que se referme ce grand dialogue qui réfléchissait sur la recrudescence des attaques. Quelle réponse pour le Mali? Et nous étions avec Fatoumata Traoré, experte en gouvernance locale, et Dr Ahmadou Touré, expert en sécurité et gouvernance locale. À la présentation, c'était Imrana Kilomega. Merci de l'avoir suivi.